Alors aujourd'hui, le lycée René Billière a la chance de recevoir M. Xavier Arnaud de Sartre, chercheur en géographie en études rurales. Bonjour M. Arnaud de Sartre.
Bonjour.
Je viens de résumer votre domaine de recherche en deux mots. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre parcours, par exemple ?
Le parcours, donc vous avez dit doctorat en études rurales, ça commence à dater, c'est 2003. Donc jusqu'au doctorat en études rurales, je fais des études de géographie. Classique, enfin une prépa 2 années, puis après 3 années de géographie à la fac. Un doctorat qui a duré 4 ans sur la déforestation de la forêt amazonienne. Et après, j'ai été recruté au CNRS, donc c'était en 2004.
D'accord.
Donc, au sein d'un travail de groupe en spécialité SES, on a travaillé du coup sur votre parcours et on a remarqué que vous étiez directeur au sein du CNRS, du coup. Pouvez-vous nous dire quel est le but d'une personne chargée de recherche au Centre national de recherche scientifique ?
Alors, le CNRS, c'est un organisme de recherche généraliste. On est 25 000 en France, divisé moitié en chercheurs, moitié en personnel d'appui ou de soutien. Donc, ça fait 12 000 chercheurs sur à peu près tous les champs du savoir existant. Donc, il y a des spécialistes de linguistique, comme il y a des spécialistes de physique nucléaire. Donc, après, le CNRS, l'objectif, la mission qui nous est donnée, c'est en gros de faire progresser le savoir dans tous ces champs-là, mais avec des priorités qui nous sont données pour répondre aux questions sociétales. Donc, il y a à peu près il y a 6 questions qu'on considère comme prioritaires, parmi lesquelles la transition énergétique, les inégalités éducatives, etc., la santé. Voilà. Et nous, notre rôle, c'est on prend un sujet qui est ce qu'on appelle un front de science, c'est-à-dire une question à laquelle on n'a pas de réponse et dont on pense qu'il serait important de répondre, et on met en œuvre ce qu'on peut pour y répondre. Avec notre caractéristique, c'est qu'on est fonctionnaire, donc on est payé quoi qu'il arrive, même si on n'a pas de résultat, et même si on dit quelque chose qui ne plaît pas. C'est un gros avantage du CNRS, c'est qu'on est totalement libre de notre parole, et on est là uniquement pour dire ce qui nous paraît, et ce qui est vrai, ou du moins ce qui est démontré, qui peut être considéré comme vrai au moment où on le dit. Et alors qu'on est assez peu accusable de conflit d'intérêts dans le sens où on dirait quelque chose pour favoriser les intérêts d'un tel ou d'un tel. Ce qui, en matière de santé, d'énergie, est quand même important, parce que comme c'est des sujets sur lesquels il y a beaucoup de débats, ben, normalement, on apporte la parole la plus libre.
D'accord. Alors moi, j'avais une autre question. Vous êtes depuis 2018 directeur du laboratoire TEEN. Pouvez-vous nous parler de vos projets et objectifs futurs au sein du laboratoire ?
Alors, je suis directeur de laboratoire depuis 2021 et directeur d'une chaire TIN. Donc la chaire, c'est une équipe au sein du laboratoire.
Si d'accord.
Donc je suis directeur de cette chaire. Donc c'est une chaire qui travaille sur la transition énergétique, qui a une caractéristique, c'est de travailler avec des acteurs qui sont confrontés à des problèmes de transition, en gros de déploiement des transitions. Donc on travaille sur le déploiement des renouvelables en grande partie, et on a travaillé sur les plans des collectivités territoriales. Bon, en gros, un acteur a une proposition de transition et il veut la déployer dans les territoires, et nous, on travaille sur la manière dont ce déploiement peut ou ne peut pas se faire. Donc on travaille sur qu'est-ce qu'il propose, comment il le propose, qui porte la proposition qu'ils ont, et comment les publics se positionnent par rapport à cette proposition. Notre objectif n'est pas que la proposition marche, notre objectif est qu'elle soit mise en débat de manière intelligente, de manière à ce qu'on puisse débattre de est-ce que cette solution est bonne ou pas.
D'accord, merci.
Alors, moi, j'avais une question. Vous nous avez dit, donc, tout à l'heure, vous aviez un doctorat en géographie en études rurales. Et vous publiez, donc, en 2003, vous avez dit votre thèse. Et en 2006, vous publiez un article scientifique tiré de votre thèse sur le front pionnier d'Amazonie. Qu'est-ce qui vous a orienté, vous, dans le cadre de vos travaux, vers l'étude de ce front pionnier en particulier, en Amazonie ?
Je voulais travailler sur les fronts pionniers. Quand j'avais plus ou moins votre âge, notre prof en géographie, on avait vu les fronts pionniers et ça m'avait plu. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être un peu fini ce mode, mais les fronts pionniers, c'est le Far West. C'est-à-dire c'est des zones où il n'y avait que des Indiens. Et l'homme moderne, nous, alors en l'occurrence, c'est le Far West des Américains, au Brésil des Brésiliens, mais enfin, nous, des gens comme nous, décident que les Indiens, ça suffit, ils les foutent dehors. Ils prennent leurs terres et à la place, ils mettent en agriculture. Et c'est des zones extrêmement violentes, comme dans les westerns. Hein. Enfin, moi, j'ai eu 7 personnes avec qui j'ai travaillé qui ont été assassinées dans des conflits pour la terre. Donc c'est vraiment comme les westerns, c'est-à-dire on tue les Indiens, les cowboys se tuent entre eux. Enfin, et c'est des zones à souvent très fort enjeu environnemental parce que les Indiens avaient des pratiques tout à fait préservatrices de l'environnement. Et du coup, quand nous, on arrive par-dessus, on peut dire un gros mot, mais enfin, on se retrouve comme des sagouins, on casse tout. Et donc, d'un point de vue environnemental, qui était l'autre chose qui m'intéressait, c'est des zones importantes dans lesquelles il faut agir. Donc je me suis intéressé au front pionnier à la fois par l'amour des westerns et par conviction écologique. Quoi.
D'accord.
Mais pour rejoindre la question de mon collègue, quelles sont vos relations avec les pays d'Amérique du Sud?
Alors depuis 2015-2016, j'en ai plus, parce que j'ai décidé de changer de sujet. J'ai travaillé donc depuis mon master 97 à 2015 sur la déforestation de la forêt amazonienne d'abord, la diffusion des semences transgéniques dans la pampa argentine et les parcs nationaux. Depuis 2015, donc, j'ai arrêté ça. Donc, jusqu'à 2015, qu'avaient été mes relations, on avait créé ce qu'on appelle un laboratoire international, c'est-à-dire c'était un groupe de recherche franco-argentin-brésilien qui répondait à des questions de diffusion d'agriculture alternative et qui regardait comment réussir à déployer ces formes d'agriculture dans les territoires. Exactement la même question que sur l'énergie, mais ça appliquait à l'agriculture à l'époque. Et dans ce laboratoire, la plupart de mes collègues étaient argentins ou brésiliens, et puis nous, on arrivait avec des questions similaires. Alors mes relations avec... c'était avec des collègues que j'avais des relations, avec les institutions de ces collègues, donc les institutions de recherche auxquelles ils appartenaient. Par contre, pas de relation avec le monde politique, puisque la recherche est quand même souvent assez à part du monde politique.
D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, juste après cette interview, vous allez nous parler de transition énergétique et en lien avec ce que vous avez pu voir dans la forêt amazonienne. Pardon. Je voulais savoir si, selon vous, dans le cadre d'une transition énergétique, le retour à une agriculture raisonnée est nécessaire.
Alors, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc là, ça va être clair. Si on ne change pas les pratiques agricoles, ça ne tiendra pas. Donc voilà. Alors, tout l'enjeu est qu'est-ce qu'on appelle une agriculture raisonnée. C'est-à-dire que c'est ça qu'on ne sait pas. L'agriculture raisonnée, aujourd'hui, prenez n'importe quel agriculteur, demandez-lui s'il fait de l'agriculture raisonnée, et il va vous répondre bah oui, c'est pas l'agriculture raisonnée. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment quelle forme d'agriculture il faudrait mettre en place. Alors, il y a différents univers de solutions. Il y a d'une part ceux qui disent qu'il faut faire des améliorations technologiques, variétales, etc. pour faire une agriculture qui résiste mieux à un environnement changeant, qui protège mieux les sols, etc. Et puis d'un autre côté, vous en avez qui disent ben non, c'est la technologie dans l'agriculture qui a amené l'agriculture dans le mur dans lequel elle est aujourd'hui. On ne va pas faire plus de technologie parce que sinon on ne soigne pas le mal par le mal. Quoi. Et donc il y a tout un tas de personnes qui disent qu'il faut détechnologiser l'agriculture, revenir à plus respecter les cycles naturels et adapter l'agriculture à ces cycles plutôt que d'essayer par la technologie de contrecarrer les cycles. À peu près le débat il est là. Qui a raison, qui a tort, je pense quand même qu'il va falloir des modifications profondes que la technologie ne sera pas à même de permettre. Mais vous avez là des collègues qui peuvent dire l'exact contraire. Donc, voilà. Mais en tout cas, sur le fait que l'agriculture va devoir changer, je crois qu'il n'y a plus de débat. Même les personnes de plus mauvaise foi sont obligées de le permettre.
Alors, vous venez de nous parler de l'avenir. Moi, j'avais une question sur l'actualité que j'aurai l'occasion de reposer tout à l'heure devant tout le monde pendant votre conférence. J'aimerais attirer votre attention sur les récentes polémiques qui ont lieu autour du projet de construction de méga-bassines à Sainte-Soline. Comment est-ce que vous, en tant que chercheur dans ce domaine d'activité, vous positionnez sur cette question du coup, qui fait beaucoup polémique et qui brûle dans notre actualité?
On a publié dessus. En gros, les bassines, donc le système, pour interlocuteurs, ça consiste à enlever de l'eau des nappes phréatiques pour les mettre en surface, les stocker dans des bassins artificiels, des bassines, donc pas ces... et ensuite de déstocker cette eau pendant les périodes sèches pour faire l'agriculture. Donc c'est pas le même système qu'un barrage, dans la mesure où un barrage, c'est de l'eau de rivière qu'on bloque dans une vallée, et pour la déstocker l'été. Là, c'est on va chercher de l'eau dans le sous-sol. Ce que j'en pense, c'est que les modélisations sur ces bassines ont été faites dans le monde d'hier, c'est-à-dire les modélisations, c'est-à-dire les prévisions de l'utilité que pourraient remplir ces bassines ont été faites dans le monde d'hier, qui était un monde dans lequel l'eau était saisonnière et pas vraiment un problème de quantité, mais plutôt un problème de saisonnalité, et que donc il suffisait d'enlever de l'eau quand il y en avait beaucoup l'hiver pour la stocker, pour pouvoir la déstocker. Le problème, c'est que ces modélisations n'ont pas pris en compte le changement climatique et que le changement climatique pose deux problèmes. Un problème qui est qu'on manque de stocker. Un deuxième problème, c'est qu'on a beaucoup de soleil et que le soleil va faire évaporer l'eau des bassines alors qu'elle est tranquillement dans le sous-sol. Donc moi, je dirais, c'était peut-être des solutions qui pouvaient se comprendre dans le monde pré-changement climatique. Dans le monde changement climatique, honnêtement, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre.
Et bon, et du coup, on a aussi vu que vous étiez au sein du champ du laboratoire de recherche de la section en lien avec du coup un projet du gouvernement. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos recherches, les étudiants qui vous accompagnent qui...
Alors, j'imagine que le projet de gouvernement dont vous parlez, c'est le projet E2S, énergie. Alors là, un petit donc ça fait une vingtaine d'années que la recherche est en cours de profonde modification. Par rapport à ce que je vous disais initialement, pour répondre à la première question, qui était quelle est notre fonction comme chercheur, il y a 20 ans, notre fonction c'était de faire progresser le savoir dans toutes les branches du savoir. Depuis 20 ans, on nous dit, pas toutes les branches du savoir, il faut vous spécialiser sur certaines branches, qui sont les gros problèmes sociétaux. Donc l'université, donc le gouvernement a une série de réformes pour nous changer, et une des réformes a consisté à spécialiser certaines universités sur certains savoirs, en disant à ces universités, écoutez, si vous montrez que vous avez un niveau international sur ces questions-là et que vous dites que vous allez vous spécialiser sur vos questions, là vous le faites vraiment, parce qu'on est très bon pour ne pas faire ce qu'on dit, mais là, il nous demande de le faire vraiment, on va vous donner plus d'argent. Et plus d'argent, en l'occurrence, c'est beaucoup plus d'argent. C'était 190 millions, je crois. Ça commençait à être raisonnable comme montant. Et donc, l'université de Pau a dit, banco, moi je vais sur les transitions énergétiques et environnementales. Et ça, c'était 2015. C'est à cette époque-là que j'arrête de travailler en Amérique latine, en fait, pour me recentrer sur les activités de Pau. C'est à cette époque-là que j'arrête de travailler sur l'agriculture pour aller sur l'énergie, pour suivre cette dynamique. Et donc, depuis 2015, l'université de Pau se spécialise dans la recherche de solutions et l'accompagnement de solutions aux questions des transitions énergétiques et environnementales. Voilà, ça c'est le contexte général. Notre laboratoire est un laboratoire de sciences sociales, donc géographie, vous connaissez, sociologie, vous connaissez plus ou moins, et économie, vous connaissez, et puis droit, que vous devez aborder. Et ces quatre disciplines, on s'est mis ensemble dans un même labo, et on s'auto-saisit de questions, ou on prend des questions qu'on nous pose, relatives à la mise en œuvre des transitions. Et ces questions, c'est des questions très souvent ce qu'on appelle interdisciplinaires, c'est-à-dire un juriste ne peut pas y répondre tout seul, un géographe ne peut pas y répondre tout seul. Et donc, on s'associe pour répondre. Alors, quelles questions on aborde ? Ben, on travaille sur la pollution en environnement, on travaille sur la pollution des rivières à des polluants émergents, on a des questions sur l'agriculture, on travaille en énergie sur la diffusion des techniques de transition énergétique, on travaille sur la régulation. Les transitions, c'est-à-dire comment une collectivité peut accompagner une transition, comment l'Union européenne peut accompagner des transitions. Voilà. Et on travaille sur un milieu particulier, le sous-sol, mais j'ai cru comprendre que vous aviez des questions sur le sous-sol.
Non. Sur le sous-sol, non. On a travaillé sur un de vos articles que vous avez publié.
En 2021.
Sur le sous-sol, voilà.
Tout à fait. Sur l'incomplète mise en politique des sous-sols.
Voilà.
Mais non, moi j'avais...
Adèle, non ?
Non, moi j'ai posé mes questions. Est-ce que vous pensez que le CNRS va apporter d'importants impacts pour la croissance économique pas seulement en mode de production, mais surtout pour la qualité de l'air, la qualité future, le mode de transport.
Alors, vous m'auriez posé la question il y a 20 ans, j'aurais été corporate, c'est-à-dire j'aurais été une future, mais je n'aurais pas vraiment cru, parce que le CNRS va dans toutes les directions. Il fait progresser les savoirs dans toutes les branches du savoir, donc il y a un front de recherche sur une question, à la rigueur, on ne s'intéressait pas tellement à l'application sociétale de la question il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça a changé. Est-ce qu'on peut apporter des solutions? On y travaille. On y travaille de plus en plus. On y travaille de manière relativement coordonnée. Et il y a on fait des propositions, pas que nous. Évidemment, le CNRS avec les autres instituts de recherche nationaux, avec les universités, mais on fait avancer des choses sur tout un tas de sujets, l'hydrogène, les panneaux photovoltaïques, les changements de comportement. Ensuite, est-ce que c'est nous qui détenons la solution? Non, nous, on peut apporter des solutions, mais ensuite, derrière, c'est est-ce qu'on décidera de s'en saisir ou pas? Et est-ce qu'on acceptera de payer le prix social, le prix économique, le prix politique de ces solutions? Donc d'abord, toutes les solutions qu'on propose ne sont pas bonnes, bien évidemment. Et après, ces solutions, elles prennent sens dans un univers de sens, je dirais. C'est-à-dire qu'une technique n'est jamais une autre technique, elle implique toujours des modifications sociales, toujours des modifications économiques. Donc du coup, est-ce qu'on accepte les modifications sociales et économiques que cette technique implique? Ce n'est pas du tout garanti. Donc nous, on apporte des techniques, on essaie de réfléchir à leurs impacts économiques, sociaux, environnementaux. Ensuite, est-ce qu'elles seront reprises ou pas, ces innovations? C'est pas du tout sûr. Les armoires du CNRS sont pleines de bonnes idées inabouties. Et qu'est-ce qui les fait aboutir? Le fait qu'elles rencontrent un marché, le fait qu'il y a des politiques qui s'en saisissent, tout un tas de sujets qui nous font. Mais on essaye de faire en sorte de rendre le monde meilleur.
Pensez-vous que le CNRS est plus un impact national ou international?
Alors, on dit quand même international. En gros, la France, toute seule, ne peut rien. Il faut imaginer, la France, c'est à peu près la Californie, en taille, nombre d'habitants et PIB. Donc, si, imaginez la Californie toute seule, elle peut faire plein de choses, elle peut faire des téléphones, etc. Enfin, elle peut les concevoir, mais la Californie, elle prend sens que parce qu'elle est à l'intérieur des États-Unis. Les États-Unis, ils prennent sens que parce qu'ils sont dans un univers international de la recherche. La France, on pense à la même chose. Le CNRS, ne prend sens que s'il fonctionne à l'échelle européenne, et l'Europe est un des quatre grands acteurs mondiaux de la recherche sur les transitions. Mais c'est comme ça qu'on se perçoit. On n'est qu'une toute petite brique de quelque chose de beaucoup plus large. Il faut vraiment avoir en mémoire ces comparaisons, la France et la Californie.
D'accord. Moi, j'avais une question du coup par rapport au sous-sol et un peu à la transition énergétique. C'est-à-dire que pour ce qui est des transports, on voit beaucoup les mérites de l'électrique, mais on sait que pour produire des batteries, ça demande une grosse exploitation du lithium. Donc, selon vous, est-ce qu'au final, ça vaut le coup? Est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions plus judicieuses que ce genre d'exploitation-là qui sont très polluantes?
Bon, du coup, je vais répondre à cette question en même temps que la question de votre collègue. Sur le CNRS, est-ce que le CNRS peut répondre? Au CNRS, donc, on a un des six défis auxquels on doit répondre, c'est le défi de la transition énergétique. Donc le CNRS a fait des groupes de travail sur la transition énergétique et il y avait un groupe sur la mobilité qui a travaillé sur la mobilité électrique. Et les personnes de ce groupe ont fait des modélisations, des prévisions de voitures électriques sur un scénario où on remplace le parc actuel de 35 millions de voitures par 35 millions de véhicules électriques. Et donc ils ont présenté leurs travaux et puis à un moment, je ne sais pas qui dans la salle a dit, mais est-ce que c'est possible, 35 millions de voitures électriques? Et là, dans la salle, il y a une discussion qui s'est engagée et puis il y en a qui ont dit, en réseau, ça ne tiendra pas parce qu'il faut la recharger. Non, en énergie à produire, ça ne tiendra pas, et non, en matériaux, ça ne tiendra pas. Du coup, le chef a dit une colère quand même, il a dit, vous ne pouvez pas travailler sur un truc comme ça dans votre coin si vous ne regardez pas tout ce qu'il y a autour. Donc votre question est très juste. Est-ce que 35 millions de voitures électriques, rien qu'en France, c'est possible Certains vous répondront oui, mais parce qu'on va faire de l'innovation, les prochaines batteries, on va avoir besoin de moins de lithium, etc. etc. Moi, je pense que non, c'est pas possible, qu'il va falloir, et les modèles vont dans ce sens, il va falloir réduire à peu près, diviser entre 2 et 4 le nombre de kilomètres qu'on parcourt en voiture par an, et utiliser des véhicules électriques, il va falloir combiner quoi. Des véhicules électriques pour les déplacements non substituables à courte et moyenne distance, le transport collectif pour la longue distance et la location de véhicules à l'arrivée. Voilà, c'est plutôt vers ce monde-là qu'on se dessine. Mais deux voitures par foyer pour toute la France, non, c'est pas tenable.
Et juste pour rebondir sur ça et sur la question du biocarburant, où vous situez ça dans cette problématique?
Alors, le biocarburant, c'est une question qui est un peu ancienne maintenant, dans la mesure où ça. Donc l'idée de la biocarburant, c'est de faire pousser quelque chose pour en faire de l'alcool et de le mettre dans un moteur en substitution d'essence. Et vous savez sans doute que l'Europe s'est engagée à l'échéance 2035 de ne plus avoir de véhicules thermiques, dont les agrocarburants font partie des véhicules thermiques. Donc c'était une question qui était plutôt une question des années 2000 et qui maintenant est moins importante. Alors il n'empêche qu'on va quand même avoir besoin de faire rouler des véhicules thermiques. Que les agrocarburants peuvent tenir un rôle, mais voilà. Alors après, ça c'est le sous-bassement. Ensuite, dans les agrocarburants, il y a trois générations d'agrocarburants. La première génération, c'est des agrocarburants qu'on forme à partir de grains, c'est-à-dire au lieu de manger un grain, on le transforme en alcool et on en fait du carburant. Bon, c'est bien, mais on est 7 milliards sur Terre, on sera bientôt 2 milliards, on ne peut pas se permettre. Donc, deuxième solution pour les agrocarburants, la G2, c'était à partir de ligneux. Donc cette fois-ci, on ne prend pas le grain, on prend la tige. Typiquement, on ne prend pas l'épi de maïs, on prend la tige du maïs. C'est moins efficace, mais par contre, les ligneux, il y en a plus. Les agrocarburants de deuxième génération, très bien. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que si on arrivait à faire de l'essence avec des arbres, ben, bientôt, il n'y aurait plus d'arbres. Donc on développe les agrocarburants de troisième génération qui sont faits à partir d'algues, qui probablement devraient... lever certaines limites des G1 et G2, ils poseront leurs propres limites aussi, on verra en temps et en heure. Voilà, donc les agrocarburants, une réponse en deux temps. Un, bien penser à la génération dont on parle, G1, G2, G3, et deux, se dire que c'est quand même plutôt des technologies qui sont là pour permettre la continuation du thermique, mais la thermique, le thermique, si ça ne ferme pas en 2035, ça peut être en 2040, mais je pense quand même que c'est plutôt un combat d'arrière-garde. Même si le Grand Prix de Pau ce week-end, on a éliminé de l'agrocarburant. Hein, mais je pense qu'à échéance courte, à moyen terme, ça tiendra pas.
Moi, pour rebondir sur cette question, on a parlé tout à l'heure d'agriculture raisonnable, justement. Si on décide de produire des agrocarburants de génération 3, donc à partir d'algues, est-ce que déjà, première question, on va récupérer les algues qui existent déjà pour en faire des agrocarburants, ou est-ce qu'on va créer des élevages d'algues, ça existe déjà, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, est-ce qu'on va créer des élevages d'algues et du coup une industrie agricole en fait en plus, et donc ça va peut-être dans l'inverse de ce sens d'agriculture raisonnée qui, comme vous l'avez dit, serait nécessaire pour demain.
Alors, il y a en soi, je vous dirais, aucune culture n'est mauvaise. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières de cultiver et... sur le moment où on respecte minimalement les cycles dans la production, c'est pas un problème. L'algue, c'est toujours pareil, ce genre de bonne idée, c'est que, de bonne idée entre guillemets, hein, c'est qu'on se pose pas les questions que vous posez à l'origine, et ou alors on y répond trop vite, en se disant, ah ben on va faire des fermes à algues, c'est tout à fait imaginable. Alors, ce qui est beaucoup imaginé pour les algues, c'est en toiture ou sur les murs, en terrasse, parce que pour autant que je sache, les algues ont besoin d'être exposées au soleil, donc on ne peut pas en faire quoi que ce soit, etc. etc. On a pensé à ces histoires de foncier. Pour produire des algues, il va falloir du foncier, donc en résolvant plus ou moins, comme je vous l'ai dit, en les mettant en ville. Mais ça ne tiendra pas, enfin, ça tiendra un moment, mais si le truc devient rentable, on en mettra. Donc, vous avez raison sur les questions que vous posez, mais je pense que... En tout cas, je ne connais pas les travaux qui posent ces questions. Vous vous avez peut-être un temps d'avance sur les questions ou moi j'ai un temps de retard sur les travaux scientifiques sur la G3.
Et j'ai peut-être une dernière question, donc peut-être une mise en pratique. Est-ce que vous auriez une solution pour faire en sorte que la transition énergétique accueille les immigrés climatiques?
Alors, on n'aura pas le choix. Il va falloir les accueillir. En matière de climat, on estime qu'il y a trois types d'actions différentes. L'un, c'est ce qu'on appelle la mitigation, diminuer l'impact. Donc la transition énergétique, elle est là pour diminuer l'impact du changement climatique en substituant les sources fossiles d'énergie par des sources renouvelables. Deuxième action climatique, c'est ce qu'on appelle l'adaptation, c'est-à-dire le monde va changer, comment on va s'y adapter. Donc là, typiquement, l'agriculture, comme je le disais tout à l'heure, le monde change, on a les canicules, comment on fait pour ne pas avoir trop chaud dans les canicules, vous ici, vous avez une bonne idée. Enfin, là, à la vue que j'ai, il y a un superbe parc qui doit bien atténuer l'effet de chaleur, mais c'est ce genre de questions qu'on se pose. Et le troisième type de question, c'est ce qu'on appelle les loss and damages, donc les pertes et les dégâts, c'est-à-dire les choses qu'on sait qui vont être durablement touchées. Et même disparaître. Et la question des réfugiés climatiques, elle se pose dans ce troisième levier d'action. Donc à la rigueur, ce n'est pas directement corrélé à la transition énergétique, c'est plutôt le changement climatique va provoquer des réfugiés, va falloir qu'on soit capable de les accueillir. Va provoquer des réfugiés. Alors, imaginez par exemple le pays le plus touché par le changement climatique, un des pays les plus touchés par le changement climatique, c'est le Bangladesh. Le Bangladesh est un pays qui a été créé par séparation de l'Inde, où en Inde convivaient des musulmans et des hindous. Au moment de l'indépendance de l'Inde, ils ont estimé qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble, donc ils ont créé deux pays pour y envoyer des musulmans, le Bangladesh et le Pakistan, et à l'inverse, ils ont récupéré les hindous de ces deux pays. Je vous la fais vite, mais c'est à peu près ça. Du coup, vivent au Bangladesh aujourd'hui des gens que les Indiens n'ont pas voulu, et qui n'ont pas voulu avec les Indiens. Et ils vivent sur des terres qui appartenaient à des Indiens qui ont été virées. Donc, l'état des relations entre Bangladesh et l'Inde n'est pas du tout bon. Or, là, on a des populations qui se comptent en centaines de millions de personnes, qu'il va falloir dégager. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus pouvoir vivre là, qu'ils vont devoir aller vivre ailleurs. Aller les faire vivre en Inde, vu l'état des relations entre les Hindous et les musulmans en Inde, et entre l'Inde et le Bangladesh, ça va être l'horreur. Et pourtant, il va bien falloir en faire quelque chose. Donc, nous, ici, le débat, ça va être des populations d'Afrique subsaharienne et même d'Afrique tout court. Imaginez, on a eu une guerre en Syrie, guerre dans laquelle, quand même, on porte une certaine responsabilité, qui était un tout petit pays, où il a fait partir des gens où il n'y avait absolument rien à dire, ils étaient en train de mourir sur le dos, il fallait absolument les accueillir. On a eu la politique d'accueil qu'on a eue, c'est-à-dire qu'elle a été très compliquée pour peu de monde. On a réussi plus ou moins, mais pour peu de monde. Imaginez quand ça sera pas ce peu de monde, mais ce peu de monde, pour plusieurs dizaines ou centaines de milliers de personnes, qui partiront, ou comme les changements vont être progressifs, on ne va pas pouvoir, ça ne va pas être comme une guerre où une fois qu'il y a des bombes et des gens, il faut qu'ils en aillent. Ça va être sur plusieurs années, qu'il va y avoir des familles qui vont s'installer, etc., etc. Mais que du coup, la situation d'urgence dans laquelle ces populations sont placées sera moins visible pour nous. Quand on voit le mal qu'on a eu à accepter des gens qui étaient pourtant en situation de mort, imaginez la capacité qu'on va avoir à accueillir des gens qui sont en situation de mort. Ça va être extrêmement compliqué. Après, on n'aura pas le choix parce qu'il va falloir les accueillir. Mais comment on va faire?
D'accord, merci beaucoup.
Moi, j'ai une dernière question, clôturée peut-être. Dans les documents qui nous sont parvenus, qui vous concernent, qu'on a lus pour nos travaux en économie et en sociologie, il y a une phrase qui m'a interpellé. Vos travaux, en effet, ont une dimension ethnologique, même si vous vous définissez d'abord comme un géographe, je cite, matinée sociologue. Qu'est-ce que vous entendez par matinée sociologue? J'ai un peu de mal à comprendre l'expression.
Alors d'abord ethnologique, parce que j'ai fait deux licences quand j'ai fini ma prépa, que je me suis retrouvé à la fac. Je n'avais pas m'ennuyer, donc j'ai fait deux licences, une licence de géographie et une licence d'ethnologie. Donc j'ai une licence d'ethnologie. Donc, appris la base théorique et méthodologique de la philosophie. Ensuite, le master que j'ai fait était un master interdisciplinaire géographie, sociologie et économie. Et j'ai fait un master, une thèse qui, à la fin de ma thèse, a été reconnue comme une thèse de géographie et de sociologie. C'est-à-dire que si j'avais voulu être prof de socio, je pouvais être prof de socio. Bon, il fallait que les socios m'embauchent. Mais en tout cas, j'avais des diplômes pour être prof de socio. Donc, ça c'est en termes purement institutionnels. En termes de pratique, moi je me suis beaucoup intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est comme géographe, je m'intéresse à l'espace et à la manière dont des choses se déploient dans l'espace. Ça c'est mon côté géographe, c'est-à-dire comment discuter des langues agricoles, etc., etc. Et en tant que sociologue, je m'intéresse aux gens qui vivent dans ces territoires et qui reçoivent ces innovations. C'est pour ça que je dis géographe, mathématique, sociologie, ou sociologue, mathématique, géographie. Je suis entre les deux. Ce qui m'intéresse, c'est les personnes qui vivent à un endroit et qui ont un problème à résoudre et un problème de nature environnementale. Donc, s'il y a une nature environnementale, il y a beaucoup de domaines de la géographie. Et s'il y a des gens qui se voient comme un milieu géographique, ça devient un domaine de la société.
Très bien. Merci, M. Armand-Sart, d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup. Merci.
À bientôt.
Oui, merci pour vos bonnes questions et à bientôt.